Fabrice Coustet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de CMC Market. On parle avec vous de l'année 2013 et des perspectives 2014 sur les marchés. Premier regard sur cette année 2013. Alors forcément, si on prend le curseur des actions, ça s'est très bien passé, mais pourrait être étonné puisqu'on a eu quand même des périodes un peu plus compliquées dans l'année. Comment vous analysez, vous, cette performance des actions?
On a eu déjà une année, je dirais, à deux vitesses. Une première partie d'année en forme de montagne russe. On se souvient des épisodes chypriotes, de la crise italienne. On était encore dans cette crise européenne qui n'en finit pas, acte 3, acte 4, acte 5. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où la Fed a commencé à parler, bah, c'est elle qui a donné le la sur les marchés. Et on s'est focalisé sur les US. Et on a vu à ce moment-là un CAC, en tout cas, qui continuait de manière continue à augmenter jusqu'à ce une petite cassure en décembre. Mais c'est vrai que pour les actions, finalement, le bilan est plutôt positif. Maintenant, on se tourne déjà sur 2014, évidemment, et on va se demander quels seront les drivers, c'est-à-dire les catalyseurs, qu'est-ce qui va faire bouger ce marché en 2014.
Alors justement, si on restait sur 2013, c'est clairement la politique monétaire. Tous les investisseurs sont obligés de la suivre, d'essayer de l'interpréter, parfois à tort, parfois à raison, mais ça reste effectivement le phare des marchés. On ne peut pas jouer contre, en tout cas. Ceux qui ont essayé ont perdu.
Bah, vous avez raison, c'est vrai que la politique monétaire, c'est vraiment l'alpha et l'oméga aujourd'hui des marchés. Et puis nos grands argentiers, que ce soit Ben Bernanke ou Mario Draghi, ce sont vraiment eux qui à chaque fois, encore une fois, donnaient le pouls du marché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait être risk-on, risk-off, c'est-à-dire se remettre activement sur le marché ou bien au contraire s'en sortir? C'est eux vraiment qui ont d'une part rassuré les marchés ou qui l'ont d'autre part affolé. On se souvient en juin quand Bernanke a dit attention, bientôt la fin des liquidités. On se souvient que ça a été très très difficile, non seulement pour les actions, mais aussi pour les émergents et pour les matières premières. Et ce qu'on observe à la fin de cette année, avec bah, du coup cette fin des liquidités qui intervient fin décembre ou qui va intervenir, eh bien c'est justement qu'on risque d'avoir les mêmes craintes sur les mêmes classes d'actifs.
Alors justement, là, on pourrait dire qu'au mois de décembre, les investisseurs ont plutôt bien réagi finalement à cette annonce, peut-être prématurée au mois de juin. Il y en a certains économistes qui disent c'est encore prématuré au mois de décembre. On verra. Mais en tout cas, là, les marchés se sont dit finalement, on reste dans cet univers assez accommodant malgré tout.
C'est vrai, il faut être humble hein, parce qu'on a tous essayé de prévoir ce qu'allait faire Bernanke. Personnellement, je pensais que c'était plutôt Janet Yellen, son successeur, qui allait avoir l'honneur de commencer à baisser les injections de liquidités. Et puis non, il a pris encore une fois son monde par surprise. En même temps, je dirais que c'était la surprise la plus attendue du monde. Donc les marchés avaient eu le temps de se faire à cette idée. La réduction est quand même minime. On passe de 85 milliards de liquidités, de dollars de liquidités injectés chaque mois à 75. Donc finalement, il n'y aura pas un grand bouleversement. En revanche, les facteurs de risque pour moi, c'est de regarder la courbe des taux longs aux États-Unis, donc les obligations. On voit qu'elles montent un peu. Il ne faudrait pas que ça augmente de façon, qu'il faudrait pas qu'il y ait un krach obligataire. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est-à-dire que plus ça augmente et plus effectivement ceux qui avaient investi avant vont perdre de l'argent. Donc c'est ça qu'il faudra regarder en 2014. Pour moi, c'est un facteur de risque.
Alors justement, on avait vu que la précédente occasion, justement, il y avait des forts mouvements sur les taux. Et du coup, le marché immobilier, d'ailleurs, il y avait eu un certain nombre d'inquiétudes sur ce marché immobilier. On peut retrouver ce type de phénomène? C'est possible?
Alors, je pense pas, on vient d'ailleurs d'avoir le chiffre révisé du PIB US au troisième trimestre, hein, c'est 4,1% au lieu de 3,6% auparavant. Et on prévoit pour l'année 2014 entre 2,9% et 3,2% pour la croissance aux États-Unis. Donc clairement, on voit que la première économie mondiale reprend, je dirais, le lead de l'économie. America is back. Et poussé par ses formidables talents, on souligne évidemment peut-être un début de bulle technologique. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des formidables entreprises qui vont tirer quand même cette croissance. Au niveau des indicateurs macroéconomiques, ça va mieux. L'immobilier va mieux, la confiance des ménages va mieux. Donc du coup, ce sont, je dirais, un cercle vertueux qui se met en place. Et donc cette zone US qu'on dit arriver à des niveaux stratosphériques, bah, elle peut finalement encore monter. Donc première bonne nouvelle, par effet ricochet, la zone euro, Europe va en profiter, même si les fondamentaux sont beaucoup moins bons. Mais disons que le gros de la crise est passé. En revanche, je suis plus réservé pour d'autres pays, donc les émergents, et puis le Japon, qui, à mon avis, est plutôt sur un mirage que sur un miracle économique.
Alors, si on reste juste un instant sur les États-Unis, on voit quand même que la question clé reste l'emploi, puisqu'on a vu beaucoup d'entreprises racheter leurs titres, donc des programmes assez massifs hein, de rachat d'actions. Alors, ça a aidé effectivement les revenus par action, mais pour l'instant, côté emploi, il n'y a pas encore la dynamique qu'on attend, et notamment pour que la Fed effectivement soit plus tranquille de ce côté-là.
Vous avez raison, les États-Unis expérimentent pour la une des premières fois une crise à l'européenne, c'est-à-dire qu'il y a une reprise, mais pas une reprise en V extrêmement rapide comme il s'était passé sur la crise Internet par exemple. Là, on a vraiment une reprise qui, en tout cas, se fait attendre, notamment sur le front d'emploi. Et on sait que la Fed, en particulier, va agir et réduira encore sa liquidité si, et seulement si, le chômage passe durablement en dessous de 6,5%, même peut-être de 6%. Donc, tant que les Américains n'ont pas vraiment retrouvé une croissance et un chômage vraiment très très bas, eh bien, la politique de la Fed sera ultra accommodante. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de liquidités sur les marchés et ça veut dire que c'est favorable aux actions. Donc, pour les investisseurs français qui ne veulent pas forcément investir aux États-Unis, il faut cibler des entreprises qui sont majoritairement exposées non seulement aux émergents, mais aussi aux États-Unis.
Alors, vous parliez peut-être de ce point d'interrogation japonais. On peut lire ici ou là que la Banque du Japon pourrait doubler effectivement ces montants aujourd'hui octroyés, donc aller dans un phénomène peut-être comme la réserve fédérale américaine. Donc on voit qu'il y a des mesures là non conventionnelles encore importantes. Quel risque vous estimez-vous sur le Japon justement?
Le risque principal, c'est le risque de trappe à liquidité. C'est-à-dire que finalement, ces énormes injections qu'on fait ne profitent pas du tout à l'économie réelle. Et malheureusement, contrairement aux États-Unis, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la consommation intérieure ne repart pas. Les Japonais restent frileux. Et on voit qu'une croissance qui était aux alentours de 1,5% au premier trimestre est en train de se dégrader pour tangenter les 1%. Donc, les mesures phares promises par le Premier ministre Shinzo Abe, les fameux Abenomics, ça a eu un effet, je dirais, à court terme, mais à plus long terme, on ne sait pas si cette population qui est vieillissante, qui subit aussi le problème du chômage, eh ben ça va réussir à repartir au Japon. Donc pour moi, il y a une vraie incertitude, d'autant que les marchés ont monté de plus de 60% depuis novembre de l'an dernier. Donc là, je pense qu'il est temps peut-être de mesurer ou de prendre ses bénéfices.
Alors, si l'on passe du Japon au marché émergent, on pourrait dire que là aussi, avant, on parlait des marchés émergents. Et on avait une espèce de tendance globale pour en parler aujourd'hui. Si on parle de la Chine, si on parle du Brésil, si on parle de l'Inde, clairement, on doit parler pays par pays. Sur ces pays émergents, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt sur les marchés? On peut dire que ça n'a pas été forcément pour l'investisseur, en tout cas gagnant.
Ça n'a pas été gagnant, mais ce n'est pas si négatif que ça. On est sur des croissances entre 3 et 12%. Donc finalement, c'est une petite année par rapport aux 20-25% qu'on avait connus sur ces fameux BRIC, l'acronyme Brésil, Russie, Inde, Chine. Et puis, il faut dire que les situations sont très contrastées en fonction des économies. On sait que la Chine, elle dépend quand même beaucoup des États-Unis. Si les États-Unis vont mieux, l'atelier du monde, c'est-à-dire la Chine, va repartir. Et puis, ils ont quand même donné, par rapport à leur nouvelle réforme politique, un cap qui, à mon avis, est de nature aussi à rassurer les investisseurs. Donc, je pense que les flux de capitaux vont rester sur la Chine et que le pays lui-même est quand même sur une croissance à 7%. On s'en contenterait. Mais bon, ils partent de très bas. Sur l'Inde et le Brésil, je suis plus réservé parce qu'eux, ils ont besoin de liquidités, de financement. Ce n'est pas du tout les mêmes structures. Donc attention à ces pays-là. Ils risquent d'être impactés par le fameux tapering, donc la baisse des injections de liquidités. Et puis la Russie, c'est un pays pétrole. Donc il faut regarder avec attention ce qui se passe sur le pétrole. Qu'est-ce qui se passe sur le pétrole? Eh bien, on va en avoir de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y a les gaz et les pétroles de schiste qui arrivent. Et à mon avis, je pense qu'on aura un pétrole qui sera plutôt sur une pente descendante, en tout cas au cours du pétrole, sur une pente descendante cette année. Attention à ce secteur.
Mot de conclusion, donc 2014 encore favorable aux actions selon vous?
Oui, 2014 comme en 2013, il faut absolument sortir des liquidités, des poches monétaires, pas en totalité bien évidemment, mais qui rémunèrent très très peu, pour se risquer un petit peu plus sur les actions. Notre zone préférée, l'Europe bien évidemment, on va être un petit peu chauvin, et puis des pépites en France également. Donc il faut regarder notre marché national, il y a des très belles choses à faire.
Merci Fabrice Coustet d'avoir été avec nous.